Il y a un sacré malentendu, parce que nous sommes ce soir réunis pour le culte que nous vivons dans ce temple, dans un temple protestant. Mais est-ce que c'est vraiment un temple, en fait? Parce que quand on regarde l'histoire des religions, le mot « temple », c'est la plupart du temps associé à un espace sacré, à un lieu mis à part, à un lieu où habite la divinité, un lieu où on vient pour lui rendre hommage, pour parfois lui offrir des offrandes ou des sacrifices, parce qu'on est sûr qu'il habite là, et parfois on est même tellement sûr qu'il habite là que c'est une manière de mettre la main dessus, d'être sûr qu'il va rester là, et parfois même d'être sûr qu'il ne va pas venir après nous embêter dans la vie quotidienne. Voilà, un temple, normalement, c'est un endroit qui est la résidence de Dieu, où il demeure. Un temple protestant, ça n'a rien à voir avec cela, et pourtant, ça s'appelle un temple. Alors pourquoi est-ce que nous appelons ça un temple? C'est un peu la faute de nos ancêtres. Alors c'est toujours facile de dénoncer les autres, hein, mais au début de la Réforme, quand les protestants français ont voulu nommer leur lieu, et sans doute par une pointe d'anticatholicisme, ils n'ont pas voulu le nommer église, ils l'ont nommé temple, non pas en référence à tout ce que je viens de vous dire, mais en référence au temple de Jérusalem, pour avoir un ancrage biblique et se situer dans une longue histoire qui précède. Mais voilà, avec ce mot temple, ils nous ont mis en même temps dans l'embarras, parce que ce n'est pas le mot qui conviendrait le mieux. Voilà un sacré malentendu, ou pour être plus précis, un malentendu sur la question du sacré, parce que ce n'est pas un lieu sacré dans lequel nous sommes. Et pourtant, c'est bien un temple protestant réformé. Celui-ci a même été construit directement pour être un temple réformé. Qu'est-ce qui nous fait dire que c'est un temple réformé? Ce n'est pas parce qu'il y a un piano ou un orgue, ce n'est pas parce qu'il y a des bancs, ce n'est pas parce qu'il y a des vitraux ou des murs, un toit, enfin tout cela on le trouve ailleurs. On peut le trouver dans une salle de concert, on peut le trouver dans un théâtre, on peut le trouver dans une école, dans une mairie. Ce n'est pas typiquement spécifique d'un temple protestant réformé. Mais nous avons quatre signes dans ce temple qui sont typiques d'un temple. Et normalement, quel que soit le temple réformé dans lequel vous entrez, il y a ces quatre éléments. Quatre éléments que je vais rapidement vous décrire, mais qui sont autant de défis pour nous, pour notre foi. Le premier élément, c'est une Bible ouverte. Devant le pupitre où a été jusqu'à présent conduit le culte, il y a cette Bible pour nous rappeler que c'est dans l'Écriture que se fonde notre foi, et elle est ouverte pour bien dire que c'est quand elle est ouverte qu'on peut la lire, et c'est en la lisant que se fonde notre foi. Ce n'est pas un objet magique, c'est un livre plein de vie et de souffle et de paroles et d'histoire, l'histoire d'hommes et de femmes qui, dans des siècles avant nous, dans des contextes de vie tellement différents, ont vécu des vies tellement semblables à la nôtre, avec tout ce que cela peut avoir d'espérance et de doute, de souffrance et de joie, de crainte et de foi. Enfin, ils ont partagé leur vie avec le Seigneur, pour que nous puissions, nous, en lisant leur témoignage, à notre tour, partager notre vie avec le Seigneur. Et dans cette longue histoire du peuple biblique, il y a 1000 ans qui sont tournés autour d'un bâtiment qui s'appelle le temple de Jérusalem, que le roi Salomon a construit aux alentours de 950 avant notre ère, qui est passé par des tas de péripéties, qui a été détruit par les Babyloniens au VIe siècle avant Jésus-Christ, qui a été reconstruit, qui a été agrandi par le roi Hérode le Grand au Ier siècle avant Jésus-Christ, et qui a été détruit définitivement par les Romains en 70 de notre ère, en l'an 70, Ier siècle de notre ère. Ce temple qui n'existe plus, dont il n'y a plus que des vestiges archéologiques, mais qui, pendant plus de 1000 ans, a été au cœur de la foi du peuple hébreu. Ce temple dans lequel les Hébreux pouvaient venir rencontrer Dieu, pouvaient se recueillir dans sa présence, qui était symbolisée en particulier par l'Arche de l'Alliance, vous savez, ce coffre dans lequel les tables de la loi que Moïse avait reçues étaient déposées et qui étaient rangées au cœur de ce temple, dans ce qui s'appelle le Saint des Saints. Et puis surtout, le lieu où les sacrifices étaient faits pour rendre hommage à Dieu, le temple de Jérusalem, bâti pour que, jour après jour, tous les jours, pendant près de 1000 ans, des sacrifices soient faits, des vrais sacrifices, hein, des vrais animaux tués, du sang répandu, de la graisse brûlée pour honorer le Seigneur. Voici ce qui était au centre, pendant 1000 ans, de la foi du peuple hébreu. Alors voilà, bien entendu, notre temple aujourd'hui n'a rien à voir avec ce temple de Jérusalem. Nous ne pratiquons pas de sacrifice, je rassure ceux qui viendraient pour la première fois, nous ne pratiquons pas de sacrifice. Nous ne sommes pas dans une enceinte qui serait réservée à quelques-uns et pas à tout le monde, comme était le temple de Jérusalem, qui était conçu par des enceintes successives, où il y avait d'abord une immense cour où tout le monde pouvait venir, mais ensuite on franchissait une porte, il n'y avait que les Juifs, puis ensuite une deuxième porte, il n'y avait que les hommes, puis encore une porte, que les prêtres, et encore une autre, le grand prêtre, une fois par an dans le Saint des Saints. Nous, il n'y a pas d'espace réservé. Ce n'est pas un espace sacré, c'est un espace ouvert à chacun. C'est cela que la Bible nous dit, à la fois en faisant mémoire du temple de Jérusalem, mais aussi en nous expliquant pourquoi nous ne sommes plus dans cette modalité de foi, pourquoi nous ne sommes plus dans un bâtiment pour accomplir des rites, mais simplement dans une pièce qui nous permet de lire la Bible ensemble. Alors c'est un premier défi, cette Bible ouverte, c'est que nous la lisions. Parce que sinon, ça serait un rite simplement d'avoir un objet ouvert qui nous rassurerait ou dont on serait fier, mais qui serait simplement qu'un objet. Le défi, c'est de la lire, de la méditer, d'en faire quelque chose pour nos vies, c'est-à-dire d'y recevoir non pas une écriture, mais une parole vivante. Alors pour ce faire, cette Bible ouverte dans un temple est accompagnée d'un deuxième signe, très important et que l'on trouve dans tous les temples, c'est la chair. Ce meuble dans lequel je suis. Habituellement, je prêche plutôt à l'embon pour être un peu plus près de vous, mais là aujourd'hui, puisque je parle de la chair, je me suis dit, allez, on monte dans la chair, parce que le symbole de la chair, c'est la parole prêchée. C'est pas simplement un texte lu, c'est aussi ce texte expliqué, médité, actualisé, pour qu'il trouve sens pour nos vies. C'est le rôle de la prédication, donc cette parole qui est donné, comme je suis en train de le faire maintenant. Prédication, ça veut dire étymologiquement dire vers. On pourrait dire proclamer. C'est le moment où la parole devient partagée. Une parole qui est là pour nous interpeller, parfois pour nous provoquer, parfois pour nous contester même. Parce qu'il y a toujours le risque, avec un bâtiment, comme avec l'écriture, d'en faire quelque chose de tellement sacré que ça devient un lieu de pouvoir, un lieu que l'on maîtrise, un lieu que l'on confisque, un lieu que l'on veut imposer aux autres. Ça a été le cas du temple de Jérusalem, qui au fil des siècles, parce que tellement centré sur la question des sacrifices, est devenu le lieu du pouvoir de ceux qui pouvaient sacrifier, des prêtres, et parmi eux, les grands prêtres, qui peu à peu sont devenus une espèce d'aristocratie religieuse qui avait le pouvoir à la fois religieux, mais aussi économique et aussi juridique pour régenter toute la vie du peuple de Dieu. Contre ce pouvoir que les religieux s'étaient accaparés, ont surgi les prophètes. Les prophètes dans la Bible, ce sont les hommes qui, de la part de Dieu, viennent contester les pouvoirs qui prennent la place de Dieu, et en particulier la place du temple. On a lu un extrait du prophète Jérémie, ce Jérémie qui conteste fortement, non pas peut-être le temple, mais la manière dont les gens étaient en relation avec ce temple. Vous l'avez entendu ? Il ne suffit pas de dire « c'est le temple, c'est le temple, c'est le temple ». Il faut surtout pratiquer la justice, vivre la foi en solidarité les uns avec les autres, engagés dans le monde. C'est là que se vit la vraie foi, dit le prophète Jérémie. Et tout au long de la Bible, il y a cette tension entre les prophètes et les institutions religieuses, comme une tension nécessaire pour que nous ne soyons pas à notre tour dans des rites, soit vides de sens, soit au contraire lieu de pouvoir. La prédication, elle est destinée à ce que la parole de Dieu vienne nous bousculer quand nous risquons de nous installer dans le rite rassurant. Alors le défi, il est que la prédication elle-même ne devienne pas un rite, parce que ça peut être aussi le cas. Il y a eu une prédication, donc c'était un vrai culte, tout va bien. C'est que l'évangile soit prêché et annoncé, que cette parole de Dieu amène à une rencontre et mette en relation avec une personne. Alors pour ce faire, la chair dans ce temple a besoin d'un autre signe, donc un troisième signe, c'est la croix, nue, qui est au-dessus de moi, que nous trouvons dans tous les temples. Une croix pour nous rappeler que Jésus est mort, une croix nue pour nous rappeler qu'il est ressuscité, qu'il n'est plus dessus. Ce Jésus-Christ qui vient dire que Dieu s'est approché de nous, s'est fait tout proche de nous pour que nous soyons proches de lui. Et Jésus qui, comme les prophètes, va lui aussi contester l'utilisation malveillante ou détournée du temple. C'est le deuxième passage que nous avons entendu, quand Jésus vient chasser les vendeurs du temple et les changeurs d'argent. Alors, il ne fait pas ça parce que ça ferait du bruit ou parce qu'il y aurait dans le temple la présence d'argent ou de choses comme ça. Je rassure ceux parmi nous qui sont très engagés dans la vente que nous faisons début décembre dans ce temple. Il ne s'agit pas de cela. Quand Jésus chasse les vendeurs du temple et les changeurs d'argent, c'est un acte symbolique très très fort pour contester la dimension sacrificielle du temple. Parce que s'il y avait des vendeurs d'animaux, c'est parce qu'il fallait bien, pour le sacrifice, acheter des animaux. Et s'il y avait des changeurs d'argent, c'est parce que les gens qui venaient de tous les pays avaient besoin de changer leur argent pour acheter ces animaux. Donc c'était l'économie sacrificielle du temple que Jésus vient renverser et bousculer avec cette phrase très très forte. Si ce temple est détruit, en 3 jours, je le relèverai. Jésus, en disant ça, ne nous dit pas sa grande qualité de maçon, son efficacité pour reconstruire très très vite un bâtiment. Il nous parle de sa mort et de sa résurrection. 3 jours pour rebâtir le temple. En d'autres mots, il nous dit, voilà, maintenant le temple, c'est Jésus, c'est la relation à Jésus qui est le lieu du culte. Ce n'est plus un lieu, ce ne sont plus des sacrifices, c'est une rencontre, une confession de foi en Jésus-Christ crucifié et ressuscité. C'est ça le cœur de l'Écriture. C'est le cœur de la prédication. La croix, centre de notre vie, centre de nos vies. Et c'est un défi de la recevoir encore et toujours, non pas comme, encore une fois, un rite ou une habitude ou des phrases toutes faites, mais comme une réalité qui vient bouleverser nos vies. Une croix nue dans ce temple pour nous rappeler que c'est Jésus-Christ qui est au centre de notre culte. Et puis, pour que ce signe de la croix soit vraiment compris comme étant pas simplement un élément individuel pour chacun d'entre nous, mais aussi ce qui nous rassemble, il y a un quatrième signe. C'est une table devant nous. Une table que nous appelons table de communion, et non pas un autel, parce que ce n'est pas un lieu pour sacrifier, c'est une table pour manger autour. Et de communion, parce que nous nous y rassemblons pour partager le repas de la communion du Seigneur, qui fait que nous sommes nous-mêmes en communion les uns avec les autres, en communauté. Cette table qui nous rassemble. Il y a cette dimension fondamentale d'un culte, c'est de faire église. De rassembler, on pourrait dire, tous les petits temples que nous sommes. Parce que vous l'avez entendu dans la lettre de Paul aux Corinthiens. Paul dit, c'est vous qui êtes le temple du Saint-Esprit. C'est vous en qui Dieu réside désormais. Ce n'est plus une affaire de bâtiment, de rite, ce n'est plus une affaire de sacrifice, c'est une affaire de présence dans notre cœur. Et ce repas que nous partageons ensemble, c'est ce repas qui nous dit cela, qui fait mémoire de Jésus crucifié et ressuscité, qui nous rassemble autour pour que nous le vivions pleinement, ensemble, et qui nous envoie pour que nous puissions le vivre dans ce monde, en étant témoins autour de nous, dans le quotidien, de ce Dieu qui donne sens, non pas simplement à ce lieu, mais à l'ensemble de nos vies et de l'histoire du monde. Une Bible ouverte pour que nous puissions lire et méditer l'Écriture, une chaire pour que nous puissions proclamer la parole, la partager et en être à la fois interpellés et appelés, une croix nue pour nous rappeler que c'est en Jésus-Christ que cela se vit, une table de communion pour nous dire que nous sommes ensemble Église. C'est l'essentiel qui fait un culte protestant, un temple protestant. Et dans tous les temples, vous trouverez ces quatre éléments sous des formes très variées, mais toujours présentes. Mais pour terminer, je voudrais vous dire deux choses. La première chose, c'est que c'est très important d'avoir des signes, mais que nous courons toujours le risque de confondre le signe et ce qu'il signifie, l'objet et ce à quoi il renvoie. Ce sont des objets symboliques, importants parce que ça nous donne du sens, mais en même temps le risque, ça serait de les chosifier, d'en faire des éléments indispensables, alors que nous savons très bien que nous pouvons vivre le culte ailleurs que dans un temple. Et dans l'histoire des protestants de France, ça a été très important de pouvoir vivre le culte ailleurs, quand il n'y avait plus de temple. On peut vivre un culte dans une salle polyvalente, dans le salon d'un appartement, dans une prairie, peu importe. On peut ne pas avoir de grandes bibles ouvertes, de tables, de chaires, de croix vraiment, mais l'important c'est qu'elles soient là au moins symboliquement, au cœur de notre foi. Ce ne sont pas les objets qui comptent, mais ce qu'ils signifient. Et puis deuxième élément, et je termine là-dessus, un temple en fait ça ne sert à rien s'il n'y a pas dedans une communauté qui se rassemble dans l'Esprit Saint. Le temple, en fait, ce ne sont que des murs et des symboles. Un espace, c'est quand il y a le culte que c'est vivant. C'est-à-dire des gens, nous, et Jésus nous a dit, il suffit d'être deux pour que nous soyons déjà communauté. C'est quand la communauté est rassemblée que le temple prend vie. Et c'est dans l'Esprit Saint que cette communauté devient l'Église, c'est-à-dire dans la présence du Seigneur. Et il y a quelque chose de formidable avec la présence du Seigneur, c'est que contrairement à tous les temples de beaucoup d'autres religions, d'autres fois, ou peut-être encore d'aujourd'hui, on ne peut pas l'enfermer. Il ne peut pas rester dans ce temple. Il nous précède dehors. Il est toujours ailleurs pour nous y appeler. Il est dans le monde et dans le quotidien. Il ne reste pas dans ce temple. Il est avec nous quand nous sortons de ce temple. Alors finalement, ça pourrait être un malentendu de parler de ce bâtiment comme un temple. Espérons que ce soit un bien entendu, une bonne nouvelle, de se dire que Dieu est là quand nous sommes là rassemblés en son nom, et il est encore là avec nous quand nous partirons de ce temple tout à l'heure, il sera avec nous dans notre quotidien, et puis il sera encore là dimanche prochain quand nous reviendrons. Alors à dimanche prochain. Amen.